Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour le service après-vente de la F1 consacré au Grand Prix de Turquie. Un Grand Prix européen soporifique. Mais heureusement, la FIA et la FOTA réussissent à nous tenir en éveil pendant cette saison qui prend de plus en plus des airs de cavalier seul pour Brown Grand Prix et Button. Ce Grand Prix n'aura cependant pas été sans enseignement et les plus optimistes d'entre nous y auront même trouvé des signes encourageants, à commencer par le premier abandon d'une Brown cette saison. Et là, les pessimistes comme moi se réveilleront en précisant qu'il s'agissait de celle de Barrichello. Toujours est-il qu'au programme, vous retrouverez notre contenu habituel, enrichi de quelques nouveautés, parce que quand une course est chiante, il faut bien meubler. Toujours meublé, nous effectuerons un petit retour sur la guerre entre la Fédération et les troupes impériales, les constructeurs, je veux dire, et plus particulièrement sur nos pronostics pour le top 2010, qui devrait être en théorie. Mais bien sûr, tout cela se fera en compagnie, vous l'avez bien deviné, de mes fidèles compagnons, que nous retrouvons tout de suite. Bonjour Shinji et bonjour Enzo.
Une aussi ton père.
Oui, père. Quoi? Non. C'est pas possible.
Ah, Star Wars, on redevient des gosses. Eh oui, on va vraiment se faire chier dans cette émission, donc on va vous parler de Star Wars, de plein de trucs, mais pas de Formule 1.
Ah ouais.
Alors, vous avez bien dormi? Vous avez bien regardé le Grand Prix?
Sincèrement, j'ai très peu de souvenirs de Grand Prix.
Je pense qu'on va avoir, on va avoir de gros problèmes pour trouver trois moments à la course.
Oui.
Je pense qu'on a tous le même de souvenirs, en fait.
Voilà. Le chiffre inutile de Shinji, tout de suite.
Oui.
Parce que tout le monde attend ça. Hein. Après, on peut déjà dire que, en plus du chiffre inutile de Shinji, vous pouvez trouver sur le blog, le jeudi ou le vendredi avant le Grand Prix, le drapeau inutile de Shinji. Vous apprenez l'histoire et quelques petites anecdotes sur les drapeaux des pays qui accueillent la Formule 1.
Et bientôt, le Grand Prix inutile.
Ah non, ça s'est déjà fait.
Alors,
ce chiffre.
Le chiffre du jour, je prends mon temps parce que de toute façon, il faut meubler aujourd'hui.
Non, mais on peut faire court. Hein.
Ouais. Le chiffre du jour, c'est 1776, qui n'est pas la date de naissance de Bernie Ecclestone.
Oh non, il est plus vieux que ça encore.
Bah, c'est 1664 plus 112.
C'est vrai.
Non, c'est, je sais pas, c'est... bon, déjà, c'est l'indépendance américaine. Le mec, il se la pète.
Eh bah, tu sais quoi?
Ouais.
C'est pas ça.
Ah bah, je me doute. En même temps, ça doit avoir un petit peu un rapport avec la Turquie, donc je me disais, tiens, c'est bizarre.
Bon, allez, donne-nous des indices.
Ça n'est pas un thème que j'ai déjà abordé.
Ça nous aide.
C'est une date ou pas?
C'est une date.
Ah.
Mais outre l'indépendance américaine, 1776 marque l'émergence du loukoum.
On a tué le panda, oui.
Et aujourd'hui, je vais vous parler de légende et d'histoire.
Ouais. C'est
très poétique aujourd'hui. La légende raconte que, dans son effort de faire face à toutes ses maîtresses, un sultan turc a sommé tous ses experts confiseurs de produire un dessert unique pour s'ajouter à la collection de recettes secrètes pour lesquelles il était célèbre. Le loukoum serait le résultat de toutes ces recherches. C'est qu'en 1776, au cours du règne du sultan Abdul Hamid Ier, Bekir Efendi, un confiseur en apprentissage, arriva à Istanbul et s'installa dans un petit magasin au centre de la ville. Bekir devint rapidement connu et son commerce prospéra. Les dames à la mode commencèrent à donner des loukoums à leurs amis dans des mouchoirs à lacets. Ils furent également employés comme preuve d'amour par les couples, comme on peut le voir dans des chansons d'amour turques de cette époque. Ainsi, doué avec de l'énergie et un esprit d'entreprise, il fut nommé confiseur en chef à la cour ottomane. C'est pas beau, ça?
Oh, c'est magnifique.
Tu sais quoi? C'est digne d'un reportage de Jean-Pierre Pernaut au journal de 13h.
C'était la petite surprise de Shinji du week-end. Bon, est-ce qu'on parle de la guéguerre entre la FIA et la FOTA, et puis surtout de ce qui devrait être annoncé vendredi, à savoir la liste des potentielles écuries pour l'année prochaine?
Ah ben, on peut pas ne pas en parler.
Ah, voilà. Oui. Vous savez.
C'est un truc intéressant.
Oui.
Ah mais c'est vrai.
Non,
hein,
mais, non mais sincèrement, heureusement qu'il y a ça en ce moment dans la. Dans
bah ouais, mais sinon McLaren ils auront encore dû piquer des plans de Ferrari et bon.
Ouais.
Bon quoique je leur déconseille de le faire. Hein. Bon, ça fait progresser les voitures mais pas forcément dans le sens où ils voudraient. Alors déjà un petit aperçu des candidats. Alors il faudrait peut-être que je retrouve la liste.
C'est même pas préparé.
Ah non mais alors j'ai préparé tellement de trucs.
C'est impro total quoi.
Ah ouais non mais là attends. Alors, la liste.
Donc, la liste. Outre les 10 équipes qui sont déjà en F1. Donc, il ouais, y a voilà. Ceux qui l'ont annoncé officiellement et ceux dont on pense qu'ils n'ont pas confié qu'ils avaient posé une candidature, mais ceux qui ont dit qu'ils en mettraient une.
Oui, bah, alors, il y a plusieurs cas. Hein. Y a ceux
voilà, il y a plein de cas.
Ouais, nous, on est super contents, on y va et tout, etc. Il y a ceux qui disent, oui, on y va, mais on n'en dit pas plus. Il y a ceux qui disent rien du tout. Puis, il y a ceux qui disent qu'ils y vont pas, mais qui nous disent pourquoi ils y vont pas. Voilà.
Alors, dans cette liste, il y a Art Grand Prix, je sais
oui,
pas.
Oui, Art, bon, ça c'est une rumeur, hein, parce que pour le moment ils ont rien.
Ça, c'est un rumeur.
Disons ce qui est étrange avec Art, et notamment aussi avec Dams, c'est que c'est deux grosses écuries qui ont les moyens, entre guillemets, oui. De venir à F1 avec le nouveau budget. Ouais.
Pour info, Dams, ils ont failli déjà. Ils avaient déjà ils avaient même produit la F1 qui devait être pilotée par, comment il s'appelle Comas, Eric Comas.
Mais c'est ça le truc, c'est que c'est des équipes Art et Dams qui ont entre guillemets le potentiel, tout comme Campos, hein, on en parlera, mais c'est trois équipes de GP2 et en plus bah pour Dams et Art c'est plus que du GP2, mais c'est trois équipes qui ont entre guillemets les soutiens, le nom, etc. pour venir. Et pour le moment, on n'a pas entendu leur nom, donc comme on ne sait pas exactement qui a été candidat ou pas, puisque c'est seulement les équipes qui le déclarent et pas la FIA, oui, leur présence dans la liste se justifie. Donc il y a Art.
Ensuite.
Équipe française,
en plus.
De Nicolas. Voilà.
Ensuite, il y aurait Aston Martin. Donc, Aston Martin, c'est ProDrive. C'est pas certain d'ailleurs qu'ils portent Aston Martin dès l'an prochain.
Voilà.
S'ils sont en F1.
C'est ce qu'a dit Richards. Il a dit que lui, il pensait d'abord commencer par le nom de ProDrive. Et ensuite, quand l'écurie serait installée et puis qu'elle aurait des petits résultats, passer au nom d'Aston Martin. C'est vrai que ça serait ridicule de faire tout de suite sauter, enfin, de mettre le nom d'Aston Martin et de jeter comme ça en pâture un nom célèbre un peu à la façon de Spyker quoi.
À la façon de Jaguar moi je dirais plutôt.
Oui, de Jaguar, oui, mais tiens, c'est encore mieux ouais.
Quoi qu'il ça, serait c'est... Jaguar, il serait deuxième du championnat hein.
Ouais, oui, c'est vrai.
Donc ensuite, Campos Meta F1.
Campos ouais, c'est l'équipe espagnole puis bon ça fait quand même un bail qu'ils sont rumeurs parce que Campos ils étaient encore en GP2 l'an dernier. Et ils ont arrêté le GP2, donc là, sans annoncer d'autres projets. Donc tout le monde a dit, bon bah s'ils arrêtent le GP2, c'est parce que sans doute ils ont un projet F1. Donc c'est sans doute un vieux projet qui est dans les cartons. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que l'ancienne écurie Campos a été rachetée par un groupe qui s'appelle Barrois, et dans laquelle participent Romain Grosjean et Vitaly Petrov en GP2 cette année. Et ils n'ont pas le droit de prendre le nom de Barrois, donc ce qui fait que comme ils sont inscrits sous le nom Campos, ils continuent de s'appeler Campos Barrois cette année. Donc, mais c'est une écurie qui est plus en GP2.
Ensuite, une autre équipe espagnole, Epsilon Euskadi.
Ouais. J'ai pas entendu parler ça.
Moi, alors, j'ai eux, vu le nom, mais ça n'avait pas l'air très sérieux.
On en a entendu parler, mais à travers du fameux USGPE.
Voilà.
Il était question que s'ils avaient une base européenne, ils utilisent les bases de Epsilon Euskadi.
Ok.
Ensuite, il y a Formtech.
Voilà. Bon, bah ensuite.
iSport.
iSport, oui, bah ça c'est pareil, ça fait partie des grosses écuries de GP2 qui ne peuvent qu'être citées.
Ensuite, Lightspeed F1 Team.
Alors,
ça n'a pas déjà existé comme écurie, Light.
Lightspeed, c'est une écurie de F3 qui apparemment en plus est.
Ah, il y a eu Life, pardon, je confonds avec Life.
Et non, mais attends, le pire c'est que Lightspeed ils veulent reprendre le nom de. Lotus. Ils veulent venir sous le nom de Lotus.
Ah, c'est eux.
C'est eux, ils veulent venir sous le nom de Lotus. Et puis,
Pacific l'avait fait.
Oui.
L'écurie Pacific, quand ils étaient venus, ils avaient repiqué le logo Lotus. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais ils avaient fait ça à une époque.
Ouais, Lightspeed, c'est une équipe de F3 qui est apparemment abonnée au fond de classement et voilà. Bon. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand eux, ils ont annoncé leur volonté de venir, c'est là que Briator a sorti. Bah, si on se met à accepter des équipes de F3, autant arrêter d'appeler ça de la F1, quoi. Ensuite, Shinji, quel autre?
Un nom connu de la F1, Lola.
Oui.
On se rappelle bien de leur dernière arrivée, tiens.
Bah leur première et leur dernière.
Les voitures Mastercard.
Ah, Shinji, il a un amour pour cette voiture, voilà.
Pour sa déco, hein, selon moi.
Ouais.
Ouais, c'est ça, Mastercard. Ouais.
Alors ensuite, il y a Ray Maloc Limited.
Mm-hmm. Alors là, je sais même pas ce que c'est.
Je me demande, mais je sais pas si c'est eux, parce que je sais qu'il y a une écurie qui a racheté les... ce qui restait de Super Aguri,
ouais,
et qui veut rouler en F1 avec le nom Brabham. Tu parlais de Lotus,
Brabham.
Mais...
Brabham, oui.
Brabham, oui, pardon. Brabham.
Ouais, mais c'est pas grave.
Excuse-moi. Hein.
Non, non, mais t'as raison.
Non, mais on est artiste.
Et d'ailleurs, Sir Jack Brabham, eh ben, il menace d'aller en justice, ouais, parce qu'il ne veut pas que son nom soit réutilisé comme ça.
Voilà, c'est ce que tu disais, c'est Franz Hilmer qui possède les droits de l'écurie donc, et les actifs de Super Aguri qui veut courir sous le nom de Brabham.
Donc ensuite, il y a aussi... Alors, le premier projet qu'on avait entendu parler, avant même qu'on parle de réduction des coûts,
attends,
c'est...
Attends,
le...
attends. Oui. Je rigole avant, mais après, j'aurais plus envie.
Ah, je vais dire le nom en complet. United States Grand Prix Engineering. Parce qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler F1. Me demande pas pourquoi, mais ils n'ont pas le droit de s'appeler F1.
Ah bah, ouais. Bah c'est Bernie a les droits sur le mot.
Et ouais, voilà, c'est ça le truc. C'est qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler...
Enzo F1, SAVF1, on n'a pas le droit. Hein.
Voilà, ils n'ont pas le droit de s'appeler F1, mais ils ont le droit de s'appeler F1 Racing ou F1 Team.
Ouais.
Donc, ils auraient pu très bien s'appeler USF1 Team. Non, ils ont choisi USGPE. Voilà. Je vais pas savoir pourquoi. Voilà. Ils sont pas encore prêts pour la F1, ce sont. D'ailleurs, c'est des mecs de F1 Racing. Le mec qui veut acheter, c'est un journaliste, c'est un ancien journaliste de chez F1 Racing.
Ouais. Ah bon?
Ouais. J'ai plus son nom, Peter Witzer, là. C'est un ancien de...
Witzer, ouais.
De F1 Racing.
Il y a un américain et un anglais.
Voilà.
Ceux qui valaient être basés à Charlotte.
Tout à fait.
Avec une usine qui n'est même pas encore construite. Ensuite, il y a Wirth Research Limited. Voilà.
C'est pas ceux qui veulent prendre le nom de marque. C'est pareil. Alors, on a Brabham, on a Lotus, on a Lola. Bon, là, Lola, c'est vraiment Lola.
Marche,
tu veux dire Marche Letton House?
Ouais, ouais.
Mais Marche...
Une écurie qui reprenne la marque. C'est Marche, vraiment, le sport automobile, qui a déposé une candidature.
Voilà.
Donc ça sera encore un autre projet.
On a l'impression qu'en fait les écuries se disent si on a un nom célèbre qui fait F1,
oui,
ils vont nous faire venir. Donc là on cherche, hein, bientôt il y aura Minardi et compagnie. D'ailleurs c'est
justement je suis surpris qu'ils soient pas dedans.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Ça sera la grosse surprise.
Peut-être, hein, peut-être qu'ils ont proposé mais qu'ils n'ont pas annoncé qu'ils avaient proposé. Hein.
Je suis surpris qu'il y ait ni Minardi et pour l'instant il n'y a pas non plus de projet avec Pollock.
C'est vrai.
Alors, précise aussi que Bernie Ecclestone a d'ores et déjà fait savoir qu'une seconde équipe américaine était en train de constituer un dossier d'inscription. Ce qui ne veut pas dire qu'ils l'ont déposé.
Voilà, on n'en a pas eu de suite. Mais disons, c'est deux grosses équipes de IndyCar, c'est Tim Penske
et Andretti.
Voilà. Andretti, à la limite, ça se ferait bien parce que les deux pairs ont couru et puis que le petit Marco a l'air pas mal sur certains
routiers. Les deux pairs.
Enfin, le père et le grand-père.
Michael
et Mario, les deux ont couru en F1. Mario avec succès, Michael sans succès.
Ouais.
Pourtant, il avait le prénom pour.
Ouais. Mais pas le nom
de famille. Il avait le nom pour aussi.
C'est vrai.
C'est vrai, il avait le nom de famille, mais c'était l'alchimie qui se faisait pas. À savoir qu'aussi, bon, il peut aussi y avoir, voilà, c'est dans les grosses hypothèses, mais comme on a Lola, il peut très bien aussi y avoir Dallara. Quoique Dallara est pas mal occupé dans le championnat nord-américain. Il peut y avoir aussi encore d'autres poids lourds du GP2, genre Barrois. Et puis bon, bah, on n'est pas à exclure le retour de Spiker, pourquoi pas, de voilà.
Minardi, comme t'as dit.
Minardi,
Jordan, ça serait bien. J'aimerais bien avoir
Jordan. Ouais, Jordan, ça serait bien, ouais.
Donc, on rappelle, donc, il y aura 13 places. Qu'a priori, les équipes qui sont en F1 cette année sont prioritaires.
Oui.
Bah, alors. Excusez-moi de le dire, quand même, par tous ces noms, il n'y en a aucun qui me fait rêver, quoi. Je dirais forcément, ça ne peut pas rêver non plus, quoi.
Mais carrément.
Mais c'est ça le truc, c'est ce que tu disais la dernière fois, c'est que effectivement tout ce projet de nouveau règlement, c'est bien parce que ça fait venir des équipes. Mais l'inconvénient, c'est quelles équipes ça fait venir. C'est vrai quand on regarde, on a des investisseurs dont on cherche l'origine, des mecs qui prennent des noms juste parce qu'ils prennent des noms en se disant ça va donner la crédibilité à notre projet. On a Lola qui a pas forcément fait, enfin qui est un grand nom de l'histoire de la F1, mais bon, sa seule expérience en vrai, en seule équipe, ça a pas marché. Donc voilà, ça pour le moment, au point même qu'on en rajoute des hearts, dames, etc. pour dire, bon, ça a peut-être donné du prestige, mais il n'y a rien qui fait vraiment rêver, et puis on se demande vraiment le niveau, qu'est-ce que ça va donner.
Ah, c'est clair.
Alors, si on faisait des petits pronostics, là, pour savoir, vendredi, qui va y être et qui va pas y être, si vous avez des petites idées, des favoris.
Oh, pour ProDrive, je pense que ça devrait plutôt être positif.
Ils avaient déjà un projet pour rentrer il y a 2 ans, ça s'est voilà. pas fait.
Après, peut-être une écurie de GP2.
Mais moi, je vois bien Campos.
Ouais.
Parce que Campos, il a quitté le GP2 en fin de saison dernière et il a rien annoncé derrière. Il avait annoncé un peu plus tôt dans la saison 2008 que s'il quittait le GP2, ça serait pour se concentrer pour un grand projet. Et comme par hasard, à la fin d'année, il a quitté le GP2. Donc, on peut penser qu'effectivement, il a préparé un gros dossier.
Et tout ça sera avec des moteurs.
Sans doute Cosworth, ouais.
Et en troisième place, moi, je vois bien soit USGPE ou une autre écurie américaine.
Bah, je pense que USGPE, ça fait longtemps qu'il l'annonce.
Ouais.
Sans doute qu'il y a un projet vraiment derrière.
Puis quitte à la limite à faire une équipe américaine, je pense que Penske et Andretti, les deux équipes américaines dont on parle, sont des équipes qui sont pas mal occupées par leur championnat.
Ouais.
En plus, c'est un championnat qui est en plein renouveau. Et c'est d'ailleurs faut que se méfie la F1 parce que on est en train de parler de championnat parallèle. Apparemment, les constructeurs se seraient rapprochés du promoteur du MotoGP pour étudier la possibilité d'un championnat parallèle. Faut quand même se rappeler ce que ça a fait au championnat kart à la fin des années 90, où la monoplace aux États-Unis s'est divisée en deux. Et aujourd'hui, ils sont en train de ramer pour récupérer leur public. Donc, faut pas que la F1 non plus tombe dans ce piège-là, et je pense qu'ils ont suffisamment d'intelligence pour le savoir, même si Max.
Et pourquoi ils veulent limiter à 13 écuries d'abord? C'est à cause de la détail des paddocks?
Je pense que c'est une question d'infrastructure.
D'accord. Ouais.
Mais c'est vrai que pourquoi limiter à 13? Après, faudrait aussi éviter qu'il y ait ce qu'on avait il y a quelques années, c'est-à-dire des écuries qui se fabriquaient en 2 jours. Voilà, je pense que l'intérêt aussi de la F1, c'est d'avoir un plateau stable, et d'écuries qui ont une certaine solidité.
Déjà, ils ont fait un effort parce qu'avant c'était limité à 12 écuries. Ils ont rajouté une place.
Et donc, inversement, là, on parle des équipes qui pourraient rentrer. Mais si vous voyez, alors en dehors du fait des constructeurs qui pourraient ne pas rentrer, etc., on admet l'idée que tout le monde s'entend et qu'à la fin de l'année, tous les constructeurs cette saison peuvent s'inscrire, est-ce que vous voyez, vous, des constructeurs ou des équipes partir à la fin de la saison? On parle par exemple de la rumeur Renault qui serait rachetée par Briatore.
Ouais. Ils avaient annoncé quand même que Toro Rosso était à vendre à une époque.
Ouais.
Donc, peut-être qu'une des écuries qu'on a nommées comme potentiellement entrante dans le championnat pourrait racheter Toro Rosso.
C'est vrai, c'est une possibilité.
Je pense que Toyota est le plus fragile dans tout ça. Quoi.
Tout ça, oui.
Ok. Bon, on passe à la course alors?
Alors juste un petit mot quand même, parce que moi je trouve que c'est bien beau là, on dit les écuries doivent faire des économies, etc. Bernie se mouille pas trop dans le truc.
Non.
Des fois il dit quelque chose, des fois il dit le contraire. Il y a quand même quelque chose qui est vachement fragile aussi actuellement, et c'est les circuits eux-mêmes quoi, parce que ils sont tous en perte, mais on sait que Bernie demande des millions à chaque circuit pour pouvoir faire courir la F1.
On l'a vu ce week-end en Turquie, hein, quand on pense qu'on a exigé de la Turquie qu'il fasse un grand circuit, etc., et qu'on a vu des tribunes mais vides. Heureusement qu'ils ont peint les sièges, ça fait joli, hein, parce que sinon, il y a personne dedans.
Mais justement, je veux dire... ou quel circuit va accepter d'accueillir la F1 si au final ils perdent des millions à chaque fois quoi. On sait ce que ça a donné pour le Grand Prix de France. Le circuit était pas rentable les dernières années, ça a été la Fédération française de sport automobile qui a été obligée de financer ça.
Mais même là maintenant, il y a des gros noms qui circulent, hein. Hockenheim apparemment pourrait plus tenir.
Avec Bernie aussi, il revoit ses exigences à la baisse vis-à-vis des écuries et peut-être même aussi vis-à-vis des droits télé, hein, parce que c'est également monstrueux ce qu'il demande.
Mais ce qui est drôle, c'est que Bernie avait sorti une phrase quand même de fumier, c'est qu'au début de l'année, on sait que l'argent des retransmissions télé, il est réparti en fonction d'un calcul aux équipes, et qu'apparemment Bernie cette année, il refusait de donner l'argent aux équipes. Donc ouais. Il a osé dire, lui, Bernie Ecclestone, qui effectivement demande des millions aux équipes pour au circuit pour s'inscrire et qui est super exigeant au niveau financièrement, quitte parfois à prendre des circuits qui sont à la limite du raisonnable. Et il leur a dit, bah écoutez, dans ce cas-là, l'argent des droits télé, on va le donner au circuit. Ouais. Donc il se fout la gueule du monde, quoi. À un moment donné, il est plus dans notre univers, Bernie. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il faudrait revoir aussi, s'il fallait revoir la F1, il faudrait revoir aussi sur, comme on donne beaucoup moins d'argent, on va donner moins de retombées économiques parce que les budgets sont limités. Bah, le complément, effectivement, se distribuer sur les circuits en aide à la rénovation. Comme un circuit comme le Canada, par exemple. Le Canada, il paye tout d'eux-mêmes et on sait que le gros défaut du Canada, c'est sa piste qui se. Les deux dernières éditions, la piste partait en lambeaux. On va financer pour qu'ils puissent trouver une solution sur le long terme.
Ouais. C'est pour ça que la FIA doit se méfier, parce que en cas de scission, le championnat parallèle pourrait trouver des circuits plus facilement que prévu. Hein.
Bah oui, avec les constructeurs qui ont un budget illimité.
Suffit qu'ils disent à des circuits, on organise la course chez vous, vous allez payer que dalle entre la FOM et la FOTA, ça sera vite fait.
C'est clair. Hein.
Donc la course, je coupe brutalement comme ça, mais bon.
Ouais, bah.
C'est vrai qu'on a tendance à s'attarder sur autre chose que la course, parce que la course n'a pas été hyper passionnante. les qualifications, vite fait la grille, Monsieur Enzo, non ?
Attends, je j'arrive pas à envoyer un mail.
Je l'ai, la grille.
Ah bah alors, Shinji. Alors, vous saurez, hein, la semaine dernière, la dernière fois, c'est Shinji qui dormait en regardant Roland Garros. Cette semaine, c'est Enzo qui envoie des mails.
Ah bah, pour info, c'est pour pouvoir conserver le quoi, je vais y arriver, le lien pour le concours de casque de Nick là.
Ah
donc c'est pour quelque chose de bien quand même. Mais j'arrive plus à envoyer de mail. Mais c'est quoi cette saloperie, et je vais y arriver, hein.
Bon alors, Shinji, la grille.
Ah mais je peux vous la faire sinon. Ah yeah, j'ai réussi à l'envoyer.
Ah,
non.
Ah bah Lorenzo, la grille.
non il est pas parti.
Ah merde.
Oh là.
Donc la grille de.
Ah là t'es pas en direct de Monaco.
Il est bien ici en direct de.
En direct de mon salon.
Donc échoue à l'issue de la fin de la Q1 à la 20e position Sébastien Bourdais sur sa Toro Rosso Ferrari, précédé de quelques 2 dixièmes environ de Giancarlo Fisichella sur la Force India. 18e la deuxième Toro Rosso, celle de Sébastien Buemi, puis Nelson Piquet sur la Renault, 17e, derrière.
Olé
la Force India, olé. Et là, grosse surprise, c'est quand même Hamilton qui ne passe pas la Q1 et qui échoue 16e.
Ouais, effectivement, grosse surprise.
Grosse surprise.
Ouais.
15e, bon résultat là pour le coup, c'est Sutil qui, pour la deuxième fois de suite, se qualifie en Q2 quand même. Hein. Précédé à la 14e place par Kovalainen qui, lui aussi pour la deuxième fois, précède son chef de file. 13e, Glock sur la Toyota, donc léger mieux pour les Toyota. On verra où se trouve Trulli. 12e, Nakajima sur la première Williams Toyota. 11e, Nickelfeld qui suit Kubica qui lui est passé en Q3. Donc là encore, beau mieux même des BMW. Et donc sont qualifiés donc et ont participé à la Q3 donc même Kubica donc. 9e, Nico Rosberg. Qui encore une fois avait fait de beaux essais libres, mais bon, toujours le même problème en qualif, il finit dans les derniers de la Q3. 8e, Fernando Alonso, nettement mieux que son coéquipier, là on peut le remarquer quand même, mais bon, on est habitué. 7e, le triple vainqueur du circuit d'Istanbul, Felipe Massa, seulement 7e. Donc léger retrait hein, pour les Ferrari par rapport à
déception hein, pour les Ferrari. Même chez Ferrari, ils étaient déçus.
Ouais. Et donc Raikkonen 6e.
La fond, Raikkonen qui est devant Massa.
En Turquie.
La fond, non.
En Turquie, attends, Raikkonen devant Massa, c'est un affront.
il a gagné Raikkonen en Turquie aussi. Hein.
Ouais.
5e, bon, pas sur Ferrari. 5e, Jarno Trulli.
Donc ça compte pas.
Et la Toyota, donc ça c'est une autre. C'est un très bel calibre de Trulli, hein, qui est habitué quand même à l'exercice.
Ils reviennent enfin un petit peu en forme, les Toyota. Enfin, Trulli.
Et enfin, les deux grosses équipes de ce championnat 2009 sur les deux premières lignes, mais avec, pas forcément dans l'ordre habituel. Quatrième Weber sur la Red Bull, troisième Rubens Barrichello, deuxième Jenson Button et Sébastien Vettel qui signe la pole, sa troisième pole position, a signalé que à chaque fois avant cette course, à chaque fois qu'ils étaient lancés en pole position, il avait gagné.
Ouais.
Et c'était la deuxième pole position donc pour Red Bull, la deuxième cette année, et la 156e pole position pour Renault en tant que motoriste.
Ouais, et une pole position réalisée avec moins d'essence que Button, enfin légèrement moins d'essence que Button. Sur les qualifs, j'ai des petites statistiques. Je vais sortir là sur le SAV un article d'ici la fin de la semaine sur les qualifs. Et je vous donne quelques statistiques sur le Grand Prix de Turquie. Et l'article concernera toute la saison. Moi, ce qui m'avait intrigué, c'est que pendant les qualifs, on disait les écarts se sont réduits par rapport à la saison dernière. Et c'est vrai qu'on a eu des qualifs qui ont été très serrés. Et donc, j'ai fait des petites recherches statistiques et vous aurez un peu mes conclusions dans l'article. Mais on peut déjà en avoir certaines sur celle-là. D'abord, je me suis intéressé aux pilotes en Q2, donc qui est censé être la séance la plus rapide. Je me suis intéressé au nombre de pilotes qu'il y avait à une seconde maximum du meilleur temps. En 2009, il y avait 13 pilotes qui étaient dans la seconde, donc ce qui est quand même très important sur 20 pilotes. Ouais. En 2008, il y en avait 10 et en 2007, il y en avait 9. Donc on voit effectivement que les écarts se sont un peu resserrés. Pour ce qui est des écarts, donc l'écart entre le meilleur temps et puis une autre voiture, j'ai pris deux écarts qui me semblent significatifs à chaque fois sur chaque Grand Prix. Là, on va parler de ceux de Turquie. J'ai d'abord pris l'écart entre le premier et le dixième en Q2. Pourquoi la Q2 ? Parce que bon, premier, dixième en Q3, ça a aucun sens puisqu'il y a les pleins d'essence, donc c'est pas significatif des performances. Et je pense que ce qui nous intéresse dans cette étude-là, c'est les performances. Et donc je me suis concentré sur la Q2 et j'ai pris que les 10 premiers, ce qui permet d'exclure le 16e, le 17e, le 15e, le 14e qui peuvent très bien faire un mauvais temps parce qu'ils ont des pépins techniques. Là on pense que les 10 premiers de la Q2, ils ont fait un temps maximal, donc dans de bonnes conditions, donc il n'y a pas de problème. L'écart en 2009 entre le premier et le 10e, il est de 457 millièmes
pour la Turquie.
Pour la Turquie, alors c'est pas le plus serré de la saison puisque le mémoire, ça doit être la Malaisie ou la Chine. Mais bon, c'est très serré. En comparaison par rapport à 2008 et 2009, l'écart entre le premier et le dixième était de 1 seconde 52 en 2008 et 1 seconde 30 en 2007. Donc on passe du simple au double, en fait.
Ah oui.
Et donc, pour être encore plus parlant, parce que bon, là, l'écart de 1 à 10, si effectivement, sur le Grand Prix de Turquie, on constate que il y a vraiment un resserrement de la hiérarchie, des écarts entre le premier et le dixième. Sur le début de la saison, moi, ça a été un peu une surprise quand j'ai fait la revue des statistiques. En fait, il n'y a pas vraiment une différence par rapport à l'an dernier. S'il y a une différence, c'est plutôt par rapport à 2007. Déjà, l'an dernier, les écarts entre le premier et le dixième avaient beaucoup baissé. Donc on est dans l'ordre de 5 à 8 secondes en moyenne sur 2008 et sur 2009 pour le premier au dixième.
5 à 8 secondes ?
5 à 8 dixièmes.
Ah pardon.
Voilà. Donc je me suis dit si l'écart il s'est parcéré entre le premier et le dixième, on va voir plus large. Donc j'ai pris les 16 premiers pilotes. Et comme là, pareil, même logique, j'ai pris les 16 dans la Q1 parce que en Q2, le 16e, déjà, il participe pas cette année. Et puis bon, il y a deux ans, le 16e faisait la Q2, mais il pouvait avoir un pépin technique et compagnie. Donc j'ai pris la Q1. On est quand même dans une recherche de performance, donc les temps sont peut-être parlants. Et donc entre le premier et le 16e, en Turquie, il y avait 988 millièmes de différence. Donc grosso modo, quasiment tout le plateau était dans une seconde. En 2008, on avait une seconde 553. Donc là, on prend 5 dixièmes en plus par rapport à l'an dernier. Et en 2007, on était à 1 seconde 498. Donc grosso modo, la conclusion sur la Turquie, c'est que effectivement, les écarts ont été réduits entre les voitures et surtout les écarts entre la première et les dernières voitures. On n'a plus de voitures qui sont larguées au fond. On a un gros peloton d'une quinzaine, une vingtaine de voitures. Voilà. Intéressant.
Oui, très intéressant, oui.
Ah, vous me sauvez les mecs.
Mais non, mais c'est bien, hein. En plus il y a des chiffres quoi. Hey, c'est oh. pas qu'une vague impression. Enfin, donc, on l'avait, et là tu nous la confirmes.
Donc je vous donnerai à chaque fois les statistiques et puis on verra en fonction de l'article, on verra si c'est dans la continuité de la saison ou pas. On passe à la course ?
Ouais.
Bon.
Bon.
Le départ
Qu'est-ce qui s'est passé déjà au départ ?
Au départ, il y a une petite tension là par rapport à Barrichello qui était derrière, qui faisait des bons départs de la saison, etc. Et puis en fait Barrichello il s'est Alors il s'est foiré. Bon, apparemment, alors il est parti, puis il a dû changer de vitesse ou louper un rapport, et puis il a calé, puis il s'est retrouvé, je crois, il est en un tour, il s'est retrouvé de la position 3 à la position 12. En un tour, il avait perdu 9 places.
Ouais.
Voilà. Et ce que semblaient expliquer les commentateurs de TF1, c'était que il y avait le dernier feu rouge. Non, c'est que quand les feux rouges s'allument, il y a un certain temps avant qu'ils s'éteignent et que le départ soit donné. Ouais. Et là, apparemment, le dernier feu rouge s'est allumé, puis tout de suite s'est éteint.
Non, mais c'est vrai que le départ a été très rapide.
Donc ça aurait peut-être surpris Barrichello, qui n'était pas prêt, etc. Enfin, voilà.
Ah, c'est surtout sa boîte de vitesse qui n'était pas prête.
Donc après, non, il pense que ça aurait eu un impact sur la boîte de vitesse, etc.
On peut pas lui reprocher quand même, il n'a que quelques départs à son.
Donc. En plus, il est devenu depuis Monaco, il est devenu le pilote qui a parcouru le plus de tours en Formule 1.
Ah.
Voilà. Merci StatF1.com. On va prendre la grille, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le départ.
Voilà.
Donc, ça dépend le départ si tu le fais durer tout un tour ou pas, quoi.
Ah ben, on peut faire durer le départ tout un tour. Hein, puisqu'effectivement c'est une course qui aurait très bien pu s'arrêter au terme du premier tour, ça aurait pas changé grand chose.
Voilà. Elle s'est arrêtée au premier tour, hein.
C'est vrai.
Il s'est joué là, hein.
Bah, c'est ce que tu disais en plus la dernière fois par rapport à Vettel, tu supposais que Vettel, comme tu faisais le comparatif avec Schumacher, il avait peut-être du mal à résister à la pression, et là c'est vrai
il
que
l'a prouvé.
Sur le premier tour, Button lui remonte dessus, il remonte assez bien sur lui. Et dans un virage, Vettel fait une erreur.
Il l'a fait tout seul.
Ah ouais, il l'a fait tout seul.
Je veux dire, Button, il lui met pas.
Ah non, il le met pas dehors. Et je pense qu'effectivement, Vettel dans sa tête, il le voit sans doute se rapprocher dans les rétroviseurs. Donc, je pense qu'il se met un coup de pression tout seul et on le voit depuis le début de saison. Il est très nerveux et il veut jouer le titre, il veut jouer la victoire tout le temps, etc. Et bon, bah là, il s'est monté le bourrichon, il a fait une petite boulette, et petite boulette, grosse conséquence, puisqu'au final, il finit troisième, enfin, il est obligé de changer toute sa course.
Ouais.
Voilà.
C'était le Grand Prix.
Alors, Jenson Button, encore vainqueur.
Bah, tranquille, hein.
Ouais, tranquille.
Voilà.
Alors, pour le coup, j'ai bien aimé sa victoire. Voilà. Enfin, j'avais pas aimé Monaco, mais là, je sais pas. J'ai trouvé du panache, quoi. J'ai trouvé un truc à la. J'ai cru voir Schumacher. Voilà. Je me disais, ouais, je vais retrouver. Ça va faire chier, certes. Parce que je vais dire qu'on se fait chier pendant cette saison parce que Brown domine. Alors que j'étais fan de Schumacher à l'époque. Et en même temps, je vais dire Button du bien. Donc,
Mais tu remarqueras que pour la Turquie, il y a un basculement dans l'opinion des gens. Ça, bien évidemment, dès le début, le fait qu'il accumule les victoires, c'était chiant. Mais là, on sent que, j'ai envie de dire, cette victoire en Turquie, c'est celle de trop.
Ouais, ouais.
À Monaco, les gens disaient, ouais, c'est génial et tout. Là, Turquie, ils disent, non, il y en a un qui a déjà gagné 6, il faut qu'il arrête.
Mais en plus, ce qui est criant en Turquie, c'est que on dit depuis quelques courses, on dit qu'il n'a, entre guillemets, que deux adversaires désormais, Vettel, qui on l'a vu à craquer. Et Barrichello, son coéquipier, qui on l'a vu dans la course, a fini par abandonner. Donc malheureusement, là, je crois qu'au classement général, il a 30 points d'avance il a 32 points d'avance sur Vettel. Il a 26 points d'avance sur Barrichello. Bon, on est dans une saison archi dominée par Button. Ouais. Mais voilà, j'ai trouvé que dans sa course, il y avait une sorte de panache à la Schumacher, à continuer d'attaquer. Tu sentais qu'il était à fond tout le temps, très très consciencieux dans ce qu'il faisait. Bon, dans les cinq derniers tours, il a lâché du lest. Mais bon, voilà, moi j'ai bien aimé cette course.
Maintenant, la grande question, c'est quand, hein?
Oui, voilà.
Alors pour info, je viens de regarder, hein, Schumi en 2002. C'était au Grand Prix de France, c'était au 11e Grand Prix et c'était le 21 juillet.
Et on peut même
je pense pas qu'il pourra être titré avant. Non, ce sera pas aussi tôt.
Non, mais c'est pas possible de toute manière puisque c'est en 2003 que la réglementation a changé sur le nombre de points.
Voilà.
À l'époque, on avait encore 10-6. Ouais. En 2002.
Et on peut quand même préciser que là, avec 6 victoires, l'année prochaine, il est champion. Champion dès le mois de juin. Donc le championnat n'a plus intérêt dès le mois de juin.
Non, mais c'est encore le temps de changer, ça.
Oui, mais ça va changer. Ça, c'est obligé. Enfin, à l'exemple de cette saison, ça va obliger. Il va être obligé de lui dire. Surtout que la prochaine course, c'est l'Angleterre. on se dirige quand même vers un 7 victoires en 8 courses, quoi.
Cette année, je verrais bien fin août.
Fin août.
Le Grand Prix d'Europe ou peut-être la Belgique.
Ah, la Belgique. Ah, oh, ça sera beau. Moi, il abandonne à Valence, mais je veux qu'il soit titré en Belgique. donc, c'est la 7e victoire de Jenson Button, la 6e cette saison. Du même coup, c'est la 6e pour Brown Grand Prix en tant que constructeur et la 73e pour Mercedes qui se frotte de plus en plus les mains.
Oui.
Deuxième position, Marc Weber.
Eh oui, une Red Bull, mais pas celle qu'on attendait.
Alors pour le coup, à chaque fois, Marc Weber, on le voit pas venir, puis là, cette fois-ci, on l'a bien vu venir.
Ouais.
Ça a été un peu tout le suspense de la course, quand même. C'est est-ce que Marc Weber va rester devant Vettel? belle course de Weber.
Ça fait plaisir, puis il est plus qu'à une marche.
Franchement, on dirait que il s'est vraiment débattu pour battre son coéquipier, là.
Ouais.
Et surtout que Vettel, il l'a poussé pour le rattraper, hein. À la fin de la course.
Mais c'est en plus.
Malgré son équipe qui lui a dit de rester calme, d'économiser.
Mais c'est l'un des trucs, c'est peut-être l'un des trucs à retenir cette saison. Je pense qu'on en reparlera dans le bilan de fin de saison, mais Marc Weber, c'est sans doute la surprise de la saison, quoi.
Oui.
On disait qu'il allait se faire dominer par Vettel, ce qui n'est pas du tout le cas. Vettel est un cran au-dessus, mais Weber, il est présent, il est dans ses échappements, il se défend comme un beau diable, à l'image même de Barrichello, hein, Barrichello qui n'a pas non plus été ridicule face à Button, hein, mais Weber, il montre une solidité, et puis il se montre, il fait presque regretter d'avoir fait les mauvais choix de carrière avant, parce que c'est un mec qui, coéquipier d'Hamilton ou de Raikkonen à la limite chez McLaren à une époque, ça pouvait donner quelque chose d'assez sympa. On en parlait d'ailleurs à une époque de voir Weber arriver chez McLaren.
Puis quand on sait d'où il revient cet hiver, respect,
ouais.
Quoi.
À fond. Ouais, c'est vrai. donc, troisième, Vettel.
Ah, le grand malheureux du week-end.
Ouais. En même temps, il peut que s'en prendre à lui.
Yes.
Ah là, ouais.
Ça y est, je sais plus ce que pense Enzo. Parce qu'Enzo, vous avez pronostiqué Vettel champion.
Là, en
est-ce
plus.
Est-ce que tu continues à avoir ce sentiment, Enzo?
Ouais. On sent aussi que. Il s'est passé un truc au niveau du championnat. Il y a comme une cassure. Je veux dire, les rares espoirs qu'on pouvait encore avoir, on se dit là, ça sent peut-être le roussi. Hein.
Bah avec Vettel qui part en pôle et puis qui finit troisième et Barrichello qui abandonne, oui.
C'est encore jouable.
Ouais, non, mais bien sûr, c'est encore jouable. Il y a plein de choses qui peuvent faire que. D'ailleurs, c'est quand on regarde les statistiques, par exemple, d'Alonso, hein, ces deux championnats, il s'envole au début de la saison, puis il est rattrapé en fin de saison. Puis à un moment donné, peut-être que chez Brown, ils vont commencer à gérer la fin de saison aussi. Peut-être qu'ils vont se dire, bon, là, on a une solide avance, donc ils vont commencer à gérer, peut-être qu'ils vont faire des erreurs. Bon. Le truc, c'est que malheureusement, les cartouches sont en train de se griller en face, avec notamment Red Bull, avec Ferrari qui semble vraiment pas en mesure de rivaliser pour le championnat avec Brown. Donc, à part Red Bull, on voit pas qui peut monter. Et puis Red Bull, ils sont encore en train de développer la voiture. D'ailleurs, je retire ce que j'ai dit. J'avais de gros doutes sur les progrès de la Red Bull après Monaco. Apparemment, ils ont fait des changements qui correspondent bien à la voiture et il n'y a pas de déperdition à noter. J'étais vraiment très inquiet pour.
Mais regarde, même la Brown, on avait peur que sur le long terme, Et pour l'instant, elle garde son écart d'avance. Hein.
Ah, ils ont abandonné quand même.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on peut noter ce week-end, c'est que finalement, après deux courses qui étaient relativement Monaco qui était atypique, puis bon, l'Espagne où tout le monde est habitué, donc les écarts sont un peu nivelés. Au final, on se rend compte après trois grands prix, voilà, on a les écarts d'avant, c'est-à-dire Brown qui est un ton au-dessus de Red Bull, Toyota qui cette fois-ci est à la lutte avec Ferrari, Williams qui est dans le jeu aussi, bon bah voilà, pas d'évolution en ligne de mire quoi. Tiens, en parlant de Toyota, Trulli quatrième.
Déjà, on voit qu'au niveau des performances, on est, c'est un peu la deuxième classe, hein. Parce que ouais. Si tu regardes les temps, Vettel il arrive à 7 secondes de Button. Trulli 27. Et on peut pas dire que la Toyota ait joué une seule fois dans la course le podium.
Non.
Bah, bon redressement pour Toyota, parce après deux grands prix assez calamiteux.
Ah, il le fallait parce que...
Mais ça remonte, mais pas au niveau qu'ils étaient.
Bah, on se dirige vers une bataille Toyota-Williams-Ferrari.
Ouais.
L'inconvénient de Williams, c'est que Williams n'arrive pas à placer ses deux pilotes, là où Ferrari et Toyota arrivent à placer les deux pilotes. Petite faiblesse de Williams. Enfin, l'une des petites faiblesses
de
Williams.
Oui, ils sont que l'écurie cliente, ils vont pas non plus faire trop d'ombre.
C'est Williams quand même, il y a un certain ego.
Non, mais elle est bien, cette Williams. Hein. Encore Nico a encore fait une super course, quoi.
Ouais, cinquième.
Franchement,
à un moment donné qu'il pouvait tâter le podium. Hein.
Ouais, il a longtemps été quatrième ou troisième.
Il mérite d'être dans une autre écurie, quoi.
Oh, toi, tu lis les articles en ce moment.
non, mais c'est pas ça. Mais Alonso chez Ferrari, moi, j'aimerais bien. Oui, c'est moi qui dis Alonso chez Ferrari. Je le revendique. D'ailleurs, j'ai mon F1 Racing devant les yeux. Là, Fernando n'est-il pas le meilleur pilote du monde?
Ouais, c'est drôle, hein. Le débat, on arrive à... C'est vrai que finalement, quand on regarde ce qu'on a en face, il y a d'énormes talents, mais peut-être que le plus complet, c'est finalement
l'Anglais. Oui, l'article, c'est ce qu'ils disent et c'est intéressant, en effet.
Je ne l'ai pas encore lu, moi.
Non, j'ai pas lu non plus l'article. Moi, j'ai lu que...
Non, mais ça résume à peu près ce que tu... Moi, je l'ai lu, c'est après ce que tu dis, quoi. C'est vrai que c'est le plus complet. On a des talents, mais qui ont une ou deux lacunes. Lui, il a un niveau global assez phénoménal.
Ah, et puis il a une force de se débattre avec une voiture. Enfin, même l'année dernière, quoi. Là où on voit, par exemple, que Hamilton est, Hamilton est déjà en vacances là chez McLaren et qu'on laisse peut-être plus sa chance à Heikki Kovalainen. Bon, c'est vrai que chez Renault, il n'y a pas à laisser sa chance à Piquet. Et on sent que Alonso, l'année dernière, il était sur tous les grands prix, il y allait le mort aux dents en se disant peut-être que ça va marcher. Et effectivement, deux fois, ça a marché. Et cette année, on voit qu'Hamilton est peut-être déjà plus dans la saison et Alonso qui continue à y croire, qui continue à exiger des progrès, alors qu'il n'y a franchement plus rien à espérer avec la voiture on voit Briatore qui espère à chaque fois la cinquième place. Mais arrête, Pépère, arrête. sixième, Felipe Massa.
Ouais, tellement bah, si. Il y avait bien un effet Monaco.
Oui et non, oui. Et... On a retrouvé les Ferrari de Barcelone.
Voilà.
Donc c'est déjà beaucoup mieux que le début de saison.
Ouais, mais on est sur 58 ou quoi.
Ouais, voilà.
Ça fait 0,06.
Ouais, ça fait 7 dixièmes par tour.
Ouais, 7 dixièmes par tour.
Bon, d'ailleurs, si on regarde, il suffit juste de regarder les meilleurs tours en course. Hein. On regarde les meilleurs tours en course. Raikkonen, il est à 4, il a presque 5 dixièmes. Son meilleur tour en course, il est à 5 dixièmes de Button. Et Massa, il est à presque 6 dixièmes. Donc voilà, là-dessus, rien à dire. Puis bon, la hiérarchie devant, c'est Red Bull, Toyota, il y a la Williams de Nakajima et puis Robert Kubica. Donc. Puis il faut une course assez transparente. Je crois que la seule fois, moi, le seul souvenir que j'ai des Ferrari ce week-end, c'est le ravitaillement de Massa. Et puis oui, il y avait un passage radio sur Raikkonen qui apparemment était pas content de la voiture. Et puis d'ailleurs, ça se voit dans le classement final.
Oui.
Pour en changer. On a l'impression que Raikkonen il s'amuse à voilà, une fois je fais une course de merde pour que les fans se réveillent et disent Alonso en 2010, puis une fois je fais une bonne course pour faire taire les fans.
Je vois pas de qui tu parles.
Bah de Raikkonen hein. ouais, bah ça bon, c'est bon. Voilà.
Décevant.
Course moyenne. Je m'attendais quand même à mieux de la part de Massa, surtout de Massa. J'ai même trouvé moyen en qualif, puisqu'il a pas réussi à être devant Raikkonen, alors que quand même, c'est son circuit, quoi. C'est quasiment le circuit Felipe Massa de Turquie. Et voilà, il est bon, il n'était pas aussi super motivé. Faut voir. Septième, Robert Kubica.
Premier point pour Robert cette saison.
Ah bon?
Deux points magnifiques. Je sais pas combien il en avait à la même époque l'an dernier, après 7.
On va regarder. Hein.
On a dit, vous vous rendez compte qu'il y a 2 mois, on disait, vous vous rendez compte, Robert, il a peut-être failli gagner le Grand Prix d'Australie et tout.
Alors, l'an dernier, à égalité, il avait 14, 19, 24, 24, 34, 42 points.
Mais ben.
Il avait 40 points de plus.
Waouh!
Mais bon, surtout 20 fois plus, quoi.
On pourrait s'amuser à faire ça sur tous les pilotes du premier.
Non, pas Ferrari.
Non, c'est vrai que Ferrari, on peut le faire sur Raikkonen. Quoique non, on va peut-être attendre qu'on avance un peu plus dans la saison pour Raikkonen. S'il avait fait un bon début de saison en 2008. on va attendre déjà le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix de Singapour. Donc, j'ai perdu mon classement, du coup.
Huitième, Timo Glock.
Ouais, Timo Glock. Alors, Timo Glock.
Qui confond des Toyota, hein.
Quand vous lirez F1 Racing, vous apprendrez que Timo Glock, son surnom, c'est le chien d'attaque. Enfin, c'est Glock Dog, qui apparemment veut dire chien d'attaque. Voilà.
Bah, si vous regardez les petits casques de Enzo, vous verrez qu'il y a son logo dessus qui est un petit chien.
Waouh.
Et parce qu'il est parti 13e, il finit 8e.
Ouais, bah, voilà.
Dis-le, c'est pas mal. De ce que je dis, quoi.
T'as remarqué que j'osais rien dire, Shinji, hein. J'ai essayé de pas me foutre dans la merde, mais quand même. J'ai pensé pareil qu'Enzo. Allez, Philippe, Shinji, dis-lui. Ah oui, intéressant.
Mais oui, mais ils sont toujours très beaux, ces casques. Il le sait.
Deuxième, le champion du monde 2007, Kimi Raikkonen. À 50 secondes.
Oui. Alors, au début de la course, il a lentement descendu, celui, puis il s'est fixé, là, 9e, 10e place. Puis on l'a plus revu.
Ouais, mais tu sais, c'est comme les comment ça s'appelle, en cyclisme, souvent t'as les mecs qui veulent pas se fatiguer, alors ils se laissent couler à la fin du peloton, puis ils se laissent tirer par le peloton, voilà.
Mais c'est presque ça.
Et bah Kimi Raikkonen, c'est ça, voilà. Et voilà. On sent que l'année prochaine il va faire du WRC ou un truc dans le genre, parce que là.
Mais et ben la façon de comment il s'appelle Lance Armstrong qui va revenir pour le Tour de France, j'aimerais bien que Schumi revienne chez Ferrari. Alors.
Hey, je suis sûr qu'ils en rêvent chez Ferrari. Ouais. Ou peut-être chez Brown. Ah là, il revient chez Brown, je vous jure, je parle plus jamais de Ferrari. Dixième, un autre champion du monde, double cette fois-ci, Fernando.
Franchement, je le verrais bien revenir quand même. Enfin, c'est peut-être qu'un rêve. Je dis, c'est pas exclure qu'il revienne un jour, à la façon d'un Niki Lauda, ou d'un Alain Prost. Bon, Alain Prost, c'était qu'une année, mais.
À la façon d'un Jacques Villeneuve.
C'est pas exclure aussi, c'est pas.
Dans un top team, je sais pas. Honnêtement, je sais pas.
Ah, oh, il reviendra pas si c'est pour faire de la figuration.
Je sais pas, si c'est avec une voiture sponsorisée pour une œuvre humanitaire ou un truc dans le genre, moi je le verrais bien. Dans une petite équipe.
Non.
C'est ça le truc en fait, la nouvelle équipe de 2010, c'est la Schumacher Racing. Il y aura 4 équipes, il y aura 4 pilotes aux avant-postes, les 2 Brown et les 2 Schumacher. Avec comme pilote Ralf Schumacher. Oui, on veut récupérer Ralf. Je suis désespéré, je suis obligé de suivre ses résultats en DTM et de suivre ceux de Marcus Winkelhock. Alors, hein, s'il te plaît, Ralf, reviens. Alors, après Fernando Alonso, oui, ben, on va peut-être parler de Fernando Alonso, non?
Un peu décevant, quand même.
Bah, ouais, ben, très décevant, quoi. L'appareil, c'est
un pilote perdu.
C'est la déception. Moi, je trouve que Renault, c'est le truc, c'est qu'il continue à avoir de l'espoir et avoir de l'ambition, alors qu'il faudrait qu'ils revoient un petit peu leurs ambitions à la baisse, quoi. Quand t'entends à chaque fois, à chaque semaine. Le vendredi soir, je lis Briatore qui dit oui, on est bien, peut-être la 4e ou 5e place dimanche pendant le Grand Prix. Ouais, non.
C'est Briatore.
Déjà un point ou deux points, ça fait rien.
Faut jamais croire ce qu'il dit, Briatore.
Ah non. Mais Briatore, quand il parle, t'as l'impression qu'il est en train de te draguer. Voilà.
Oui. Et qu'il se fout de ta gueule aussi.
Un petit discours de séduction. Oui, peut-être qu'il se fout de ta gueule, ouais.
Les Ferrari, oh, ils vont ravitailler le 18e tour, les McLaren au 19e. Les Renault, je sais pas, les Renault.
Ah, tu le fais bien, l'accent italien. 11e, Nick Heidfeld. Bon, voilà.
Bah, c'est le bonus de BM, quoi.
Ouais, voilà. Enfin,
le mieux, quoi, de BM. Ouais, mais moins pas, mieux que Kubica.
C'est pas le mieux de Nick Heidfeld. C'est bizarre, hein. C'est le truc que j'avais remarqué l'an dernier, sur la fin de saison. Quand Kubica, il a une voiture pour se battre, il y va. Par contre, quand il a une voiture pour pas se battre, il monte dans la voiture, il fait 50 tours de circuit, le bras, le coude à la portière, il se fait pas chier.
Et puisqu'on parle des BM, en fait, eux, ils ont carrément abandonné le kart. Ils l'utilisent plus. Il y a plus de Ferrari et McLaren, en fait.
Voilà. Ouais.
C'était les deux seuls week-ends qu'utilisait le kart. Et on rappellera quand même que BMW, c'est les seuls qui se sont opposés au fait que personne n'utilisait le kart cette année.
Résultat, la FOTA est en train de se mettre d'accord pour ne plus utiliser le kart l'an prochain.
Alors, la FOTA à majorité, parce qu'ils peuvent pas accepter, parce que BMW, ils maintiennent leur position. Non, il faut garder le kart. Parce que ça nous fait du bien, nous.
On l'utilise pas, mais faut le garder.
Voilà, donc voilà. C'est totalement n'importe quoi. Quoique, apparemment, il y a le kart, comme quoi, faire le kart de Williams, que Williams n'a jamais utilisé, il intéresse le métro de Londres. Et pourtant, Williams ne s'en est jamais servi.
Ils doivent le sortir quand?
Apparemment, au début de l'été.
Été 2012.
Ça pourrait être une surprise, hein.
Ouais, bah ouais, avec le kart.
Parce que si ils ont un kart, c'est efficace avec les Brown, les Red Bull, parmi les grosses voitures, du moins les bonnes écuries, on va dire, ils pourraient faire des bons résultats, quoi.
Ouais. Bon, Kazuki Nakajima, on passe.
Ouais, comme d'habitude, on voilà.
Puis comme on parle d'Hamilton, on va parler d'Hamilton, mais on passe. Non, Hamilton, je viens de voir le classement, Hamilton qui part derrière Kovalainen, mais qui finit devant.
Oui.
D'ailleurs, Kovalainen finit même à un tour. Hamilton, c'est le dernier tour. Comment s'est habitué à être dernier dans le tour, Hamilton?
Bon. Bon, Monaco, il avait terminé à un tour. Hein.
Oui, voilà. Mais je crois même qu'à la course d'avant, il avait déjà fini à la fin du tour. En tout cas.
Franchement, ça fait quand même de nombreuses années qu'on n'a pas vu un champion du monde maltraité comme ça. Hein.
Ouais, parce que même la saison quasi vierge de Schumacher en 2005, il faisait souvent des points, quoi.
Ouais, voilà, il était
mais il y avait des points, il y avait des podiums de temps en temps. Là, pour Hamilton, il n'y a rien.
Et il y a eu une victoire.
Mais c'est vrai que pour un champion sortant, c'est... Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui est dommageable, enfin... On a déjà parlé au cours de la saison du règlement et voilà de ce que ça pouvait avoir de dommage d'avoir changé le règlement comme ça. C'est bien parce que ça a changé la hiérarchie, mais voir un champion comme Hamilton ne pas pouvoir défendre ses chances alors qu'il n'est pas mauvais au volant.
Non.
Voir un mec comme Kimi Raikkonen l'an dernier pas défendre ses chances parce que il fait rien pendant la saison. Entre guillemets, c'est de sa faute à lui. Mais là, Hamilton, il fait ce qu'il peut faire avec la voiture. Il essaye de se débattre avec la voiture, une voiture qui a l'air de plutôt bien marcher en essai, parce que je pense qu'ils font du bluff. Par contre, en qualif, etc., c'est plus ça. Et voilà, donc il essaye de se battre avec la voiture. Eh ben, il peut pas défendre ses chances, et ça me fait chier. Au même titre que voir Fernando Alonso ne pas gagner et se morfondre l'année dernière avec ça me faisait mal. Ça me fait mal pour Hamilton, parce que c'est un mec qui doit pouvoir défendre ses chances, quoi. Moi, je dis, on devrait lui donner l'autorisation de piloter à la place de Barrichello. Juste pour le plaisir. Pour dire, voilà, vas-y, défends ta chance. Allez, vas-y.
Mais là, McLaren, ils ont dit qu'ils commençaient à travailler pour l'an prochain.
Ouais, déjà. C'est comme Ferrari qui fait semblant de se poser la question, puis qui bosse déjà pour le prochain.
Voilà.
Ferrari, ils ont progressé, ils voient qu'ils ne sont pas à hauteur, donc ils vont commencer à apporter des modifications. Surtout qu'il y aura peu
de... Tu veux dire qu'ils ont commencé à préparer la saison prochaine à laquelle ils sont pas sûrs de participer?
Mais ouais.
Voilà.
En interne, ils savent très bien ce qu'ils font. Puis de toute façon, s'ils font un championnat parallèle, il y aura sans doute des règlements techniques qui seront très semblables. Je pense pas qu'ils vont se mettre tout d'un coup à dire, on part d'une feuille blanche. Je pense qu'il y aura quelques équipes qui seraient pas d'accord.
Je veux pas de qui tu veux parler.
Ferrari, Renault, McLaren.
Renault surtout.
Ah mais en plus, alors c'est ça le truc qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que apparemment Ross Brawn a été menacé par Donnelly, qui est le bras droit de Max Mosley,
Oui.
Qui lui a dit, tu ferais bien de t'inscrire au championnat sans condition parce que faut que tu te rappelles ce qu'on a fait pour toi en début de saison. Et Brown, étant solidaire avec les constructeurs, est tout de suite allé rapporter les faits aux constructeurs et les a mis en colère.
Quel faillot.
Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, ça, quel faillot. Mais bon, quand même, la classe, Brown, c'est entre guillemets une petite équipe, un petit budget. Il devrait pouvoir se satisfaire l'année prochaine de voir un petit budget parce qu'indirectement, ça va consolider sa position, hein, puisque les équipes pourront moins développer, etc. Donc, à la limite, pour lui, c'est le bon moment. Puis quand même, il fait le jeu des constructeurs, donc c'est assez sympa.
J'ai perdu toutes mes messageries.
Non.
Si.
Ah, original.
Non.
Non, mais je dis original. J'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit que c'était original.
Il était en train de compresser et il m'a tout perdu.
T'as pas de copie sur un serveur en tournant le jeu?
Tu rigoles. Tu sais bien que les informaticiens sont les plus mal. Ok.
Bon. Eh ben, je demande une minute de silence pour la messagerie d'Enzo.
Oh merde.
Une minute de silence, Enzo, merde.
Moi, on enchaîne.
Oui.
Oh, il dit ça d'une façon.
On va essayer de finir cette émission le plus vite possible.
Je sens que mon PC va bientôt me lâcher.
Bon, on a fait le tour de Lewis. Oh, vers la fin, on peut continuer sans s'arrêter. Hein. Et Kiko Valainen 14e.
Ouais.
Bon. Voilà. À un tour. Bon. J'avais l'impression pourtant qu'on peut-être que on faisait un peu se reposer à Hamilton, comme quoi il jouait pas championnat, donc peut-être qu'on lui disait bon bah c'est pas grave cette année, tu la joues cool, et puis qu'on donnait peut-être un peu plus sa chance à Eki, parce qu'il était quand même redevenu régulièrement devant Lewis. Mais bon, voilà, il confirme pas. Ça me déçoit de la part d'Eki.
Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'on a l'impression que Lewis tire la voiture vers le haut.
Ouais.
Donc t'imagines le niveau de la voiture.
Bah ouais, voilà. 15e, voilà. Sébastien Buemi.
Bah.
Voilà, qui finit devant la Renault de Piquet. Et puis, loin devant Bourdet.
Il a fait une stratégie à un arrêt.
Ouais, voilà.
Faudra qu'on m'explique l'utilité de la stratégie à un arrêt quand il pleut pas et qu'il n'y a pas de safety car.
Non, mais ça, tu le sais pas à l'avance.
Ouais. Mais en fait, alors, apparemment, pour les Toro Rosso, il y a un journal allemand, je crois que c'est Bild, qui a révélé aujourd'hui que, apparemment, Ferrari se servirait de Toro Rosso comme d'équipe d'essai le vendredi, donc c'est-à-dire que ils auraient demandé depuis le début de saison à Toro Rosso d'utiliser les mêmes moteurs le vendredi pour voir la longévité avec le temps des moteurs Ferrari. Donc Toro Rosso le ferait, sauf que là ils auraient gardé un moteur qu'ils ont depuis ça fait 1400 km que fait le moteur, et apparemment à 1400 km le moteur a pas le même rendement, et c'est normal.
Oui.
Ils auraient eu vendredi un moteur fatigué en bout de route. Et donc samedi, ils ont remis le moteur qu'ils utilisent d'habitude. Sauf que là, ils se sont trouvés avec un moteur qui avait la pêche. Donc des repères totalement différents, des réglages totalement différents. Et donc ils n'ont pas pu régler la voiture. Donc ils ont été à la masse tout le week-end. Et je pense qu'ils se sont dit, bon bah on va essayer pour la stratégie, on va essayer de voir en un arrêt et en deux arrêts ce que ça peut donner, et puis adviendra ce qu'elle viendra.
Toro Rosso qui devrait avoir son double diffuseur en Hongrie seulement.
Ouais, alors que Red Bull l'a déjà.
Oui. Ben en moyenne ils ont 6 à 8 semaines de développement de retard. C'est énorme quand même.
Mais bon, ce qu'il faut préciser, c'est que Toro Rosso, je crois qu'on l'avait déjà dit, Toro Rosso ne reçoit pas les pièces de Red Bull, ils reçoivent les plans des pièces, et c'est Toro Rosso qui fabrique eux-mêmes dans leur usine italienne, qui fabrique les pièces.
Bah oui, c'est la loi ça. Le règlement, pardon.
Oui, voilà, c'est le règlement. Mais bon, avec le fait qu'il y ait Red Bull Technologies qui fournissent les mêmes châssis en fait aux deux, on pourrait penser que ça met le Red Bull, ils usinent les pièces à Red Bull. Mais en fait non, c'est Toro Rosso qui reçoit les plans et qui fabrique les pièces eux-mêmes.
Mais avec 2 mois de retard.
Voilà, et avec des moyens qui sont pas ceux de Red Bull, quoi. C'est les moyens d'une petite équipe. Donc il y a un délai supplémentaire. On n'a pas parlé d'Adrien Sutil qui se classe 17e, donc je refais la grille vite fait. 15e Buemi, 16e Piqué, on va sans doute en reparler. 17e Sutil, 18e Bourdet dernier. A signalé 2 abandons. D'abord l'abandon de Giancarlo Fisichella sur Force India au 4e tour. Pour un problème de frein. puis l'abandon au bout du suspense de Rubens Barrichello.
Ouais.
Le premier abandon de Grand Prix cette saison.
À lui, on va en parler. De...
Pour
c'est
un
abandon, mais on va en parler.
Voilà. Petit classement de la course, donc ça c'est fait. Je voudrais inaugurer une toute petite nouvelle rubrique, un nouveau classement de la course. Voilà, allez, j'ai trouvé des chiffres que Stat F1 d'ailleurs n'a pas. Ça serait bien que Stat F1 les aille. C'est le temps passé au stand. Et je me suis dit, tiens, si à chaque Grand Prix on disait qui a passé le moins de temps, qui a passé le plus de temps, etc., etc. Cette nouvelle rubrique s'appelle le Pit Stat. Voilà. Eh, c'est beau comme nom, hein.
Ouais.
Enzo, tu es là? D'accord, on va contrôler comme ça de temps en temps, on dira Enzo. Chers auditeurs, ne vous étonnez pas, on regarde juste si Enzo est toujours là. Parce que l'ordinateur d'Enzo est en train de mourir. Alors, ce week-end, dans les stands, les pilotes ont passé en moyenne par arrêt 1 seconde 489.
C'est bon, j'ai tout mémé.
Oh. Ah, t'as vu, c'est la nouvelle rubrique qui te porte bonheur.
C'est bon.
Ah,
j'ai eu peur.
On est content pour toi.
Je suis rassuré.
ça nous déprimait, on essayait de se dire, ah, faut qu'on se motive. Ça y est, t'as retrouvé la pêche, là.
Ouais, donc du coup, je vais faire une copie. Hein.
Donc si Enzo est silencieux dans les prochaines minutes, vous savez pourquoi, il fait une copie de ce mail. Donc, le temps moyen passé au stand ce week-end, c'était 26 secondes 489. En temps total, c'est-à-dire en comptant tous les arrêts, etc. C'est Lewis qui a passé le moins de temps au stand avec 27 secondes 336, mais il a fait qu'un arrêt au stand.
Ouais.
Autant d'arrêts que Sébastien Bourdais. Et bien évidemment, celui qui a passé le plus de temps au stand, c'est Vettel, qui est passé d'une stratégie à 2 arrêts en 3 arrêts. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, quand ils ont vu que ça allait pas marcher 3 arrêts, ils l'ont pas fait passer sur une stratégie à 2 arrêts. Il a passé une minute et 13. Oui?
Non, mais c'est parce qu'on l'appelle le petit Choumi. Donc, Choumi, ouais. Il y arrivait, donc ils se sont dit.
Ouais, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on a vu Vettel revenir sur Button au bout de son deuxième relais. Bon, il fallait qu'il le passe. S'il le passait, la stratégie à 2 arrêts, elle était bonne. Malheureusement, il l'a pas passé. Donc, pourquoi à ce moment-là, on l'a pas tout de suite, on lui a pas mis des pneus durs, et puis on lui a mis le plein. Ouais. Et puis on lui dit, voilà, tu finis la course. Peut-être qu'à ce moment-là, il pouvait peut-être sauver une deuxième place.
Et donc, il a passé combien de temps?
Il a passé 1 minute 13 secondes 578 millièmes.
D'accord. Et parmi ceux qui ont fait 2 arrêts,
oui,
tu as des chiffres? Celui qui a été le plus rapide en 2 arrêts, parce que comme tu as dit, Hamilton, il l'a fait quand?
Alors, ça va venir.
D'accord.
J'ai fait la moyenne par arrêt.
D'accord. Type, le...
j'ai pris le total du temps passé au stand fourni par le site officiel de la FIA, de la F1, que j'ai divisé par le nombre d'arrêts, ce qui fait le temps moyen passé à un arrêt. Et donc, ce sont deux pilotes. Alors, celui qui a passé le plus de temps et celui qui a passé le moins de temps, ce sont deux pilotes en 2 arrêts. Comme quoi.
Ah ouais?
C'est là où on va voir la comparaison. Lewis, je vous disais, un seul arrêt. Donc, pour un gros arrêt, il a passé 27 secondes, un peu plus de 27 secondes. Le plus rapide, ça a été Glock, en 23 secondes, 761, en 2 arrêts.
Wow.
Donc on gagne effectivement 4 secondes sur une stratégie à 2 arrêts, on gagne 4 secondes par arrêt. Donc grosso modo, pour annuler l'arrêt, en comptant 26 secondes en moyenne d'arrêt, fallait avoir 22 secondes d'avance pour pouvoir conserver sa position. Voilà. Celui qui a passé le plus de temps en moyenne par arrêt, c'est Nakajima, 34 secondes 008. Donc ça fait quand même ça fait 11 secondes de plus que Glock en moyenne. Il y a sans doute eu un changement de museau là-dedans. pour une stratégie à 2 arrêts aussi. Si on fait le podium depuis le début de la saison, d'accord ?
Ouais.
Par des arrêts moyens, celui qui passe en moyenne le moins de temps dans les stands, c'est Trulli, avec un arrêt moyen de 24 secondes 307, et au total 11 arrêts. En deuxième, on retrouve son coéquipier Timo Glock, avec un temps moyen de 25 secondes 201, pour 13 arrêts. Et en troisième, Kovalainen, en 25 secondes 639, qui lui n'a que 6 arrêts, et qui, en sachant que dans cette course, il n'a fait que 2 arrêts, il n'avait que 4 arrêts avant cette course en 6 courses.
En même temps, vu le nombre de fois où il s'est planté au premier tour, tu m'as dit qu'il fait moins d'arrêts que les autres.
Voilà, donc c'est une troisième place, mais un peu aidé. Pour petite information, puisqu'on aime bien se moquer dans le SAV de la F1, à noter la dernière place, de Nelson Piquet Jr. qui fait un arrêt moyen depuis la saison, depuis le début de la saison, en 30 secondes 507, avec un total de 13 arrêts, donc c'est 6 secondes de
c'est
plus.
C'est normal, à chaque fois, il change le museau avant.
Et
il change le museau avant, c'est pour ça.
Alors, juste pour indication, le 19e, c'est Nakajima, et Nakajima, il passe une seconde de moins à chaque fois que Piquet. Et si on compare Piquet avec Alonso, qui est 16e dans ce petit classement que vous aurez sur le site du SAV, il a quand même 3 secondes de retard à chaque fois sur Enzo. Sur Alonso. Pourquoi tu dis Enzo? Voilà. Je te veux chez Ferrari, toi. Ouais. Donc voilà, donc c'est une petite. Moi, je trouve ça assez intéressant.
Non, c'est. Oui, c'est intéressant.
Après, on pourrait même s'amuser après à faire les classements en décomptant. Bon, c'est un petit peu chiant après, à la fin.
Ouais.
Mais, voilà. Donc vous aurez sur le site du SAV, je rappelle l'adresse www.savf1.fr.nf, vous aurez donc le fameux classement du SAV qu'on fait depuis quelques courses, et puis vous aurez ce podium, on ne mettra que les trois pilotes, puis en dessous le classement général, le podium des pilotes qui passent le moins de temps en moyenne dans les stands. Voilà Valou, on passe au fait marquant de la course, si on en trouve.
Alors
on va peut-être
donner les résultats de la semaine dernière.
Alors ça a été
Très chaud.
Il y a eu de la bataille toute la semaine, ça s'est décidé aujourd'hui. Il y a eu 23 participants. Oh, puis on a un match.
Bravo à vous.
Il y a eu 23 participants, donc merci à tous. La question était donc quel aurait été le fait marquant du Grand Prix de Monaco. Arrive en tête ex aequo.
Ah.
La course fait des Ferrari enfin dignes de leur nom. 35% ex aequo.
Il y a longtemps été dernier.
De Rosberg sur Massa, donc je suis premier ex-aequo.
Non, c'est pas possible. Ouais. Non, tout à l'heure, c'était pas ça.
Mais. Mais je sais pas, alors il y a quelqu'un qui a voté tout à l'heure, je sais pas qui.
Arrêtez, vous avez triché.
Moi, j'ai voté le premier jour.
Non, mais tout à l'heure, ça a pas arrêté de bouger depuis deux jours.
Pour vous dire, il y a encore quelques heures, c'était le tour d'honneur à pied de Button qui finalement fait la troisième place avec 30%.
Ah oui, non, mais attends, stop. Oui. Je porte réclamation. Parce que d'habitude. D'habitude, on enregistre le SAV le mardi soir. Donc, il faut prendre les résultats le mardi. Et donc, c'est moi qui gagne.
Alors, on va faire l'appel. Qui était prêt pour faire le SAV hier? Finji, étais-tu prêt?
Ouais, j'étais prêt.
J'étais prêt.
Oh!
Alors, Enzo. Donc, c'est vrai que cet après-midi, c'était le tour d'honneur, la proposition d'Enzo, le tour d'honneur à pied de Button. J'ai réussi à faire rentrer tout ça dans une phrase. Était devant. Et puis, en plus, juste après, c'est le dépassement de Rosberg qui est devenu en tête, la proposition de Shinji. Et puis là, apparemment, quelqu'un a voté pendant qu'on...
Surprise.
Et qui a porté la course des Ferrari en fin digne de leur nom, ex aequo avec le dépassement de Rosberg. Donc, nos deux propositions à Shinji et à moi ont fait 35%. Et le tour d'honneur à pied de Button, proposé par Enzo, a fait 30% des voix. Bon, ça fait 8 voix, 7
voix. C'est très serré.
Très serré, puis un très beau sondage. Alors, le fait marquant de la course de Turquie. Qui se lance?
Le dépassement de Piquet sur Lewis.
Ah, oui.
Ah,
bon, si vous m'autorisez, je vais dire...
Non, vas-y.
Je vais dire Vettel, qui fait la faute et donne ainsi la victoire à Button. Hein. Donc Vettel qui fait faute.
Bon, je vais prendre le départ de Barrichello.
Et le départ de Barrichello. Donc voilà.
J'ai gagné.
À chaque fois, tu dis ça, puis tu perds juste derrière.
Alors, ce qui serait bien, c'est qu'avec avec ma proposition, tu fasses un lien directement avec mon dessin. Pour appuyer.
Non.
Le gars qui triche, tu sais.
Et je remercie celui qui a posté des commentaires cette semaine. Parce qu'en plus, il a dit que ce que je faisais était utile.
Jérôme. Oui, Jérôme, on te remercie.
Donc salut Jérôme.
Vous m'avez pas reconnu avec mon pseudo.
Ah non, mais faut parler de la tentative d'Enzo.
Ah oui.
On en parlera à la fin.
Mais ouais, on en parlera à
la tentative d'Enzo de répondre sous son pseudo en plus. Hein, de répondre directement dans le commentaire à la question top opposition. Sauf que heureusement, le blog l'a considéré comme un indésirable.
Non, c'est vrai.
Je te jure, t'as été bloqué.
Mais non, ça y est, là.
Oui, mais parce que je l'ai mis et j'ai précisé, attention, Enzo donne la réponse en essayant de passer à travers le... Mais ça avait été bloqué, donc j'ai pu éditer. Attends, avant que tu donnes la réponse. Donc, vous irez sur le site du SAV de la F1, www.savf1.fr.nf. Vous pourrez voter dans les sondages, puis vous n'oublierez pas d'aller sur le site d'Enzo pour voir un très bon dessin sur effectivement le dépassement de Piqué sur Hamilton. J'allais dire d'Hamilton sur Piqué, mais de Piqué sur Hamilton. On fait peut-être le pilote de la course pour le classement du SAV.
Notre classement quoi.
Ouais, le podium. Alors, qui qu'on met en tête?
Button.
Ça nous fait chier de le mettre. Hey, on l'a au bout de la langue, mais ça nous fait chier de le mettre. On met Button.
Ouais.
Ouais, on est obligé. Hein. en deuxième, je mettrais Weber.
Bah, tout à fait.
Ouais.
Qui fait une très bonne course, donc je pense que c'est mérité pour Weber. Et en troisième.
Rosberg.
Ouais, je pensais à lui aussi.
Rosberg, sinon moi j'aurais mis soit Piqué pour son dépassement.
Sincèrement, je voulais mettre Piquet.
Soit Piqué pour son dépassement, soit Hamilton pour le fait qu'il se démerde un peu pas trop mal avec la voiture. En Rosberg ou Piqué?
Non, Piquet, il est en 4. T'as vu combien
il a fait un super dépassement, faut bien le dire.
Allez, on Piqué?
Non, quand même.
On met en derrière.
Ah non, on a dit qu'on lui donnerait au moins un point le jour où il ferait un truc bien.
Voilà.
Et eh ben ça c'est pas. Ouais.
C'est sa seule chance.
C'est sa chance d'être dans le classement.
Bon,
c'est sa seule chance.
Allez, s'il te plaît, Enzo.
Ok.
Allez, Piqué. Oui, vous entendez bien, chers auditeurs. Nous mettons un point à Nelson Piqué.
Mais comprenez bien que c'est pas le point du talent, c'est le point de la pitié.
Ah voilà, c'est voilà. Histoire qu'il soit pas absent tout le temps dans ce classement quand même.
Ouais.
Alors, ça nous donne au classement général. Button qui s'envole en tête avec 21 points. Vettel deuxième avec 11 points. Weber s'empare la troisième place avec 7 points. Ensuite, assez peu de changements. Glock, Barrichello, Execo avec 5 points. Suivent Alonso, Massa, Rosberg avec 3 points. Rosberg qui aurait donc pu prendre un peu l'avantage aujourd'hui. Bourdais, Kubica, Sutil et Raikkonen ont un point. Rejoint aujourd'hui par Nelson Piquet, par la bonne grâce de vos serviteurs.
Ouf, c'est bien dit.
C'est beau, hein. Alors, les classements du championnat, pilote et constructeur, et ça c'est Shinji qui vous le présente.
Donc, premier, encore et toujours, et il sera encore premier au moins pendant trois courses.
Il peut très bien ne pas courir trois courses et rester devant Vettel.
il sera toujours premier. Jenson Button avec 61 points.
Sur 65 possibles.
65 possibles.
Faut le dire. Hein.
Faut le dire. Deuxième, alors lui il a perdu pas mal hein, cette semaine.
Ah, il a perdu 10 points.
Ouais, 10 points. Rubens Barrichello avec 35 points.
Il est déjà à 26 points, Jenson.
Ah. Et donc troisième, celui qui va encore un petit peu plus pleurer ce soir, c'est Sébastien Vettel avec 29 points.
Donc 32 points de retard.
Voilà.
Donc Button peut se mettre en vacances pendant 3 semaines, revenir pour le Grand Prix de Hongrie. Je crois, et puis il est peinard jusqu'à fin juillet en fait, et avoir encore 2 points d'avance.
C'est fou ça. Hein.
Ah oui.
On peut peut-être dire juste la suite comme ça pour voir.
Ah, on peut quand même. Weber qui est 4ème, 27 points et demi, il est à 1,5 de Vettel. Hein.
1 point et demi, ouais.
Donc ensuite, Trulli, Timo Glock, Rosberg, Massa et Alonso.
Massa qui progresse.
Ouais. Raikkonen et Hamilton, Hedfeld, Kovalainen, Buemi, Kubica et Bourdais.
Et Kubica, comme le disait Enzo, qui marque ses premiers points de la saison. Okay, et qui est ex aequo avec notre Sébastien National.
Ouais, il y a encore 4 pilotes qui n'ont pas marqué de points. Chez les constructeurs, alors là c'est pareil. Hein,
oh la vache.
Deux courses.
2 points et demi de retard.
Deux courses tranquilles. Rhône, grand 96 points. Ils sont à 4 points des 100 points.
Même si ce week-end Brown a fait un mauvais résultat puisque
il
remporte la course, ils prennent 10 points, mais les deux Red Bull se mettent derrière. Donc Red Bull marque 14 points, donc Red Bull a repris 4 points à Brown.
Hey, Red Bull a repris 4 points. Ouais.
Plus que 39 et demi.
Plus que 39 et demi. Plus 56 points et demi. Et alors Toyota qui commence vraiment à être bien décroché, 32 points et demi. Donc Ferrari 20.
Qui remonte sur Toyota là.
Qui remonte. McLaren 13, Williams 11,5, Renault 11, BMW 8, Toro Rosso 5.
Voilà. Et pas de points pour Force India et... Voilà, Balou. On fait les drives through?
The race?
Ouais.
Ouais.
On va moins se marrer que la dernière fois. Alors, je sais que ça va être dur ce week-end. Ça peut être facile en même temps. Qui a un drive through?
Bon, allez, je me lance.
Ouais.
En drive through. C'est comme quoi la course n'a pas été passionnante, hein, parce que c'est pas vraiment sur la course. C'est un drive through qui va envers Bernie Ecclestone et on va dire tous ces pays qui veulent des grands prix. Parce que tu l'as fait remarquer au début de l'émission, les tribunes en Turquie étaient vides.
Mais alors, vide de chez vide.
Vide de chez vide. Alors là, j'ai un article de F1 Live. Il parle de 32 000 spectateurs dimanche.
Ils les ont vus où?
Je sais pas. Il parle de 32 000. Alors, c'est un circuit de F1, donc doit facilement y avoir 100 000 personnes très facilement. Et bah, ça fait mal au cœur. Parce que c'est l'exemple même, voilà, de cette politique de Bernie de vouloir aller chercher dans des pays exotiques. C'est aussi un peu la faute de ces pays-là qui construisent à rubis sur l'ongle des circuits qui sont pourtant qui peuvent être très beaux. La Turquie est un beau circuit en plus.
Magnifique.
C'est un magnifique circuit, mais voilà, pourtant Istanbul est une grande ville, hein, donc il y a une population qui est là. Et ben ça prend pas. Alors je sais que sur l'article de F1 Live, ils parlent des prix des billets. Alors ils disent dimanche, un adulte devait régler entre 500 et 700 livres turcs. Entre 240 et 335 euros. Alors, c'est pas que c'est pas cher, hein, mais c'est pas exceptionnel pour un Grand Prix de F1.
C'est vrai.
Donc, il n'y a pas que ça. Même si peut-être que la crise a touché, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on est visiblement dans un pays et dans un endroit où le sport automobile ne prend pas. Ça me rappelle la Chine. Et là où j'ai peur, c'est pour Abu Dhabi. Déjà, on a un peu peur que ça soit un peu un circuit de riches, hein, pour bien dire.
Non, mais Abu Dhabi, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont revu quand même le nombre de places, quoi. Ils ont vraiment fait un place, je crois que c'est, juste 50 000 places.
Ouais, bah voilà, vaut mieux que ce soit 50 000 places pleines, et encore, 50 000 places, ça fait pas beaucoup. Rien ne dit même que 50 000 places, ça soit rempli, parce que c'est pas un pays de sport auto. Quand on voit 32 000 pour la Turquie, puis ça fait mal, enfin, quand on compare, tu prends... C'est certain que Silverstone, ça va être plein. La Catalogne, c'était plein. Enfin, on a tellement de mal chez nous à avoir des circuits, à avoir des grands prix qui font le plein, qui ont une histoire et tout. Ça fait mal au cœur, quoi. Et ça fait d'autant plus mal au cœur à Turquie parce que en plus, on l'a dit, c'est un beau circuit, c'est vraiment dommage. Bon, la course n'a pas été passionnante, mais très belle piste. Donc voilà, c'était mon drive-thru.
Mais c'est vrai qu'en plus quand tu regardes par exemple qu'un circuit bon même si moi j'avais mis des réserves sur le circuit du Canada par exemple mais c'est un circuit où les tribunes sont pleines où il y a une ambiance extraordinaire puis là c'est vrai que tu vas en Turquie l'ambiance c'est désertique personne ne vibre alors ça, c'est vrai que le circuit magnifique il est en parfait état mais est-ce que par exemple la comment ça s'appelle Bernie Ecclestone pourrait pas plutôt aider les petits circuits comme le circuit Gilles Villeneuve, j'allais dire circuit Jacques Villeneuve. Non, il a une école de conduite, pas un circuit. Mais aider les circuits Gilles Villeneuve à se moderniser et voilà. On avait fait un article ensemble sur notre calendrier rêvé et on l'avait mis à jour pour le site du SAV, donc vous pouvez le retrouver sur le site du SAV. Et dans mon calendrier, j'avais substitué la Turquie, j'avais retiré la Turquie, j'avais mis le circuit du Portugal, Portimao. Parce que là au moins il y aura du monde, il y aura de l'ambiance, le public portugais redemande un grand prix. Donc s'il y a de la place ailleurs, oui, reprendre le circuit d'Istanbul, mais c'est vrai que le circuit magnifique, mais l'ambiance, il y a rien quoi. Il y a pas de grande manifestation.
Surtout que c'est un gouffre parce que on sait ce que ponctionne Bernie pour avoir le grand prix. Ils ont quasiment que la billetterie. Alors si la billetterie ça marche pas.
Moi, je sais pas comment.
Mais c'est ça le truc.
Comment les promoteurs peuvent revenir dans leurs frais si vu les millions que leur demande Bernie, quoi.
Mais est-ce que justement, ils veulent rentrer dans leurs frais? Souvent, c'est des pays, c'est pas des promoteurs qui cherchent, c'est avant tout des États. On prend la Chine, ils en ont, ils, à la limite, ils en ont rien à foutre qu'il y ait du monde dans les tribunes. Ce qu'ils veulent, c'est recevoir, et même en France, hein, quand on parle d'un Grand Prix, c'est pas pour le fan qu'on veut faire un Grand Prix. On veut faire un Grand Prix en France parce que la France, pour son image, etc., c'est un événement qu'elle se doit d'organiser, parce que c'est vrai qu'en France, on n'organise rien d'autre. En Chine, c'est le même topo. En Inde aussi, l'Inde, ils veulent avoir des circuits pas parce qu'ils sont super fans de sport auto,
oui.
Et parce qu'ils veulent se faire briller. Alors qu'inversement, un circuit par exemple comme Abu Dhabi, déjà le circuit, alors c'est la différence avec les anciens circuits. Le circuit, tu vas y aller, tu vas pas voir que la F1. T'as des casinos, enfin t'as plein de trucs là-bas. Un peu comme à Suzuka où il y a une fête foraine, quoi. Dans les autres circuits, t'as rien dans les nouveaux circuits. T'as juste le circuit, tu viens juste voir la course. Bon, il y a pas de valeur ajoutée. Donc dans les pays du monde arabe, etc., eux, on les sent plus fans de sport auto. Ils ont l'argent, ils se font plaisir en s'achetant un circuit, en vont venir la F1 dessus. Et après, l'image de leur pays, elle est secondaire. Mais il y a ces pays-là, l'Inde, la Chine, la Turquie aussi, qui font venir. Bah pour l'image quoi, et c'est davantage une décision qui vient du gouvernement qu'une décision qui vient d'un promoteur. Enzo, t'avais un
drive-thru?
Un drive-thru?
Oui.
J'en ai un.
Against who?
C'est pour Piquet.
Pour Piquet?
Bah oh. Oui, parce qu'il a fait un beau dépassement, on peut pas se foutre de sa gueule du coup.
Ah ouais, mais c'est un drive-thru, donc t'es obligé d'être méchant sur ton drive-thru.
Bah oui.
Bah voilà, c'est pour lui, parce qu'il nous empêche de qu'on se foute de sa gueule, et c'est pas bien.
Alors c'est drôle, parce que moi, c'est un drive-thru, mais c'est un drive-thru contre nous-mêmes. Parce qu'on s'est trop moqué de Piqué, alors qu'il nous a fait un beau ravitaillement, un beau dépassement. Voilà, on se moque souvent de Piqué. Et là, on peut pas se moquer de Piqué. Donc,
ah non.
Je nous drive-thru nous-mêmes.
Bon. C'est original.
Bon, sinon, il y aurait un drive-thru, ouais, ça serait contre
les marges du podium.
Les pilotes. Non. J'ai même pas regardé. Attends, le podium, je l'ai vu. Je sais même plus. J'ai un autre drive-thru un peu ridicule dans le genre. Je ne trouve pas normal qu'on fasse une aide d'honneur avec que des filles. Voilà. Pourquoi il n'y a pas des mecs? Hein?
Mais parce qu'il n'y a pas de, plus, de... C'est quoi le masculin de babe?
Des
pit guy. Voilà, il n'y a pas de pit guy.
Voilà, mais c'est vrai, c'est... Attends, Button, il a une copine, hein? Il a, autour de lui, quand il arrive pour gagner sa course, déjà le mec il gagne une course, tout, il est en tête du championnat du monde, il n'est pas à plaindre, et on le fait passer entre deux rangées de filles, excusez-moi, mesdemoiselles, entre deux rangées de filles super mignonnes, super bien habillées. Il a 60 filles pour lui tout seul, puis nous, on n'a rien.
J'ai un autre drive-thru, quand même. Pardon, parce que ça me fait penser à quelque chose, en parlant de Button. On a vu à un moment son père. On avait l'impression qu'il se faisait chier autant que nous. Je crois que ça l'amuse plus, en fait, que son fils se gagne sans arrêt.
Pourquoi t'es plus chez Honda?
T'as pas vu les images? Il avait l'impression de s'ennuyer lui aussi, alors que d'habitude.
Je t'avouerai, j'ai à un moment donné, j'ai à moitié regardé le Grand Prix parce que c'était pas à un moment donné, c'était chiant quoi. Il se passait rien.
Entre le deuxième et le 57e tour.
Voilà.
Ah, ça sent Enzo qui a pris des notes. Donc c'est un drive-thru contre le papa de... Allez hop, on va faire que les drive-thru ridicules. Hein. Donc moi contre les pit babe, toi contre le papa de Button. TJ, t'en as un bien...
Ah bah... allez, puisque on les a vus en beauté ce week-end, la couleur des tribunes.
Oh non, elles sont belles. Voilà, on l'avait dit qu'on se ferait chier pendant cette émission. On ne sait pas quoi dire sur ce Grand Prix. On a réussi à dire des trucs sur Barcelone, mais là, on n'en arrive pas. Alors, c'est fini pour les drive-thru. Ça a été court cette semaine.
Tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi.
C'est vrai, c'est de ma faute.
Non, mais c'est mieux, c'est mieux.
Là, on a l'impression que c'est mieux. Désolé, j'ai essayé, hein, pourtant, j'ai regardé de près le podium. Je me suis dit, ouais, il faut quelque chose. Mais non. On passe au pronostic pour le Grand Prix d'Angleterre. Enfin, le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Button.
Ouais. Bah, j'ai envie de dire Button, moi aussi.
Et moi aussi, j'ai envie de dire Button, donc.
Donc, alors, on va faire un truc. On a pas le droit de pronostiquer Button pour le Grand Prix d'Angleterre. Allez, on est obligé de trouver quelqu'un d'autre.
Je vais dire Lewis Hamilton. Parce que c'est le dernier Grand Prix à Silverstone, quand même.
C'est vrai que s'il pleut, à la limite, il peut être pas mal, Lewis. Hein.
Moi, je dirais Weber.
Weber. Weber. Ouais, ça me trottait aussi en tête. Eh ben, je dirais Barrichello. Voilà. Hein, je suis un peu obligé. Barrichello devant Button.
Ah non, mais c'est une bonne idée.
Donc, on va pouvoir passer sur ce concours top position. Alors, la question était,
à Monaco, quelle modification a été apportée au casque des pilotes McLaren?
Et la réponse était...
Eh bien, il y avait des petits diamants sur le casque qui formaient le numéro
voilà.
Des pilotes. Hamilton avait un 1 et Kovalainen avait un 2. Heureusement qu'ils n'avaient pas le numéro 4814.
Bah, vraiment que c'était pas les numéros de l'an dernier. Ouais. 22 et 23, ça aurait fait mal.
Ouais.
Non, mais là, ils ont été malins parce qu'avant, ils mettaient des diamants
à l'avant
sur le
museau
des Jaguars ouais. Et ils les perdaient. Alors, là, ils se sont dit, on va mettre sur le casque du pilote, il y a moins de risques.
Même s'il se fait décapiter, on retrouvera la tête.
Voilà, voilà. Là, au moins, on irait chercher la tête, quoi.
Vu que Lewis, il en a une sacrée.
Trois personnes ont répondu pour cette édition. On progresse.
Waouh.
Traditionnellement, maintenant, notre fidèle Maël a répondu et a donné la bonne réponse. D'ailleurs, tous les gens qui répondent donnent la bonne réponse.
C'est étonnant quand même que, malgré le fait qu'ils aient reçu leur cadeau tout pourri, et ben, ils continuent.
Ah oui, alors d'ailleurs, tiens, je voulais te le dire en direct, en différé, mais en live. Nous avons reçu un message de Maël qui nous a accusé réception de ses magnettes et qui les trouve très beaux. Voilà.
Oh.
Donc, gloire t'en soit rendue.
Oui.
Voilà. Et encore, Maël n'a pas les nouveaux magnettes hein, qui ont tué la cartouche d'Enzo. Le SAV tue l'ordinateur d'Enzo, mais les magnettes du SAV tuent sa cartouche d'après-vente.
Ah oui.
Donc, on a Maël qui a répondu. On a Jérôme qui a plusieurs fois commenté sur notre blog et on l'en remercie une nouvelle fois, qui a répondu. Et on a Maxime qui a répondu également. On fait un petit tirage au sort, comme d'habitude. J'ai écrit sur trois bouts de papier un numéro et un prénom en dessous. Et il y en a un de vous deux qui me dit un numéro entre 1 et 3. Donc 1, 2 ou 3. Alors vas-y, Enzo, tiens.
Ouais. Allez, 3.
3, alors 3, c'est Jérôme qui l'emporte. Et Jérôme, qu'est-ce qu'il gagne chez G?
Il gagne un magnète.
Et un magnète, pas n'importe quelle magnète.
Non.
Du SAV de la F1.
Un magnète collector.
Collector, puisqu'il est unique au monde, puisque il y en a qu'un exemplaire qui existe. Et c'est un magnète qui sera personnalisé pour le Grand Prix de Monaco, puisque c'était la question du Grand Prix de Monaco. Et d'ailleurs, je remercie aussi Enzo qui a confectionné ces magnètes, ces magnifiques magnètes.
Ouais.
Voilà. Vous recevrez bientôt dans vos boîtes aux lettres pour Kevin et donc Jérôme qui a gagné. Donc désolé aux perdants Maël et Maxime, mais n'hésitez pas à retenter votre chance. Et donc, tout de suite, c'est Enzo qui vous propose le concours Top Proposition.
Vous venez d'écouter le SAV spécial Grand Prix de Turquie, super passionnant comme le Grand Prix. Répondez maintenant à la question que nous vous posons. Quel pilote de F1 courra ce week-end alors qu'il n'y a pas de Grand Prix? Envoyez vos réponses en utilisant le formulaire contact sur le site du SAV www.savf1.fr.nf. Rendez-vous dans 15 jours pour le SAV du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Merci Enzo. Et rendez-vous sur le site du SAV de la F1. Pas seulement pour répondre à la question, il y a aussi d'autres articles, hein. Il y a l'article de Shinji, le drapeau inutile de Shinji. Vous pouvez aussi retrouver tous les lundis et des fois le mardi quand j'ai pas le temps d'écrire le lundi, l'actualité des ex de la F1. Ça n'intéresse pas du tout Enzo, parce que lui il s'en fout de Ralph. Oui, ça intéresse si on se moque de Ralph Schumacher.
Uniquement.
Mais là, ce week-end, Raph Soumarra n'a pas conduit, donc n'a pas piloté, donc on n'a pas pu en parler. Mais vous aurez chaque semaine les résultats des anciens pilotes de la F1. Et puis, bon, bah, des articles qu'on fera de temps en temps. On a d'autres idées. Des quiz, des puzzles. Il y a aussi un petit, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour la fête des mamans, on a fait un petit test sur est-ce que vous connaissez ces 10 mamans. Bon, moi, mon score est hors catégorie. 977 sur 1000, je crois. Enzo, tu as été battu par Jérôme, en fait.
Je sais.
Voilà. Faut que tu retentes ta chance.
Et j'ai retenté et je l'ai encore fait en dessous, donc je me suis pas enrevu.
En connaissant les réponses, t'as fait en dessous.
Ouais, mais je les ai oubliés entre temps.
Ah, d'accord. Donc, bah voilà, on va vous donner rendez-vous dans une quinzaine de jours pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Un Grand Prix qu'on espère intéressant, voire plus vieux, ça nous arrangerait. et puis voilà, revenez sur le site du SAV, restez informés en vous inscrivant à notre newsletter. Et puis allez aussi sur le site d'Enzo, il y a des dessins qui viennent de temps en temps. Et puis voilà. T'as vu, j'ai dit de temps en temps. Oh, j'ai pas dit tout le temps. J'ai pas dit rarement, j'ai dit de temps en temps.
et bientôt, vous pourrez y commander les magnifiques magnettes.
Oui, voilà, que j'ai devant les yeux d'ailleurs, mais que j'ai pas de frigo. Alors, et le frigo, ça par contre, vous débrouillez, hein, vous l'achetez vous-même. Ça, Enzo, il a pas trouvé comment faire à la maison alors. Donc voilà, rendez-vous dans 15 jours. Salut.
Salut.
Salut à tous.
Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.